BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, tous les spécialistes médiatiques du Covid se sont reconvertis en spécialistes du détroit d'Ormuz. Vous avez vu, il y en a plein, les plateaux, c'est incroyable. Tous les gens qui connaissent le détroit d'Ormuz, je ne savais pas qu'on avait autant de spécialistes en France sur le sujet. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission évidemment exceptionnelle, parce qu'on va commenter les événements qui ont marqué cette nouvelle semaine de guerre sur l'économie, la finance, les marchés, votre argent. Une émission donc spéciale guerre en Iran, encore une fois, pendant laquelle on va essayer de s'éloigner un peu du bruit environnant pour prendre un tout petit peu de hauteur. Bon, je sais pas si les invités seront capables de le faire, mais moi je vais le faire, pour essayer d'avoir une vision et de vous donner des indications sur l'économie et sur ce qui va se passer, puisqu'on sait. Oui, alors ça, on aurait dû le dire en préambule, on sait ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est durée. Ben, évidemment, la durée du conflit, on a bien compris qu'il y avait plusieurs scénarios et qu'en fonction des scénarios, ben, l'impact sur l'économie ne serait pas la même. La question macro, si on croit, ben, pourquoi pas, hein, ce que dit Donald Trump, qui a dit que la guerre serait bientôt finie, ben, quel sera l'impact sur la croissance, sur l'inflation, sur les taux d'intérêt? Et dans le cas où, pour une fois, il aurait menti, est-ce qu'on va vers une crise prolongée? Le chiffre de la semaine, ça concerne le pétrole, ça a été la libération, c'est 400 millions de stocks de barils d'urgence qui n'ont eu absolument aucun impact sur le marché, alors que c'est un montant record. On va parler de la place étonnante encore que prend le pétrole dans l'économie mondiale. On n'est plus en 1973, on est en 2026, mais on vit quand même à l'heure du pétrole. En deuxième partie de l'émission, évidemment, les événements majeurs qui ont marqué les marchés, et puis quelles perspectives sur la bourse dans les mois qui viennent. La question d'argent dans ce contexte, où placer son argent, top ou flop, le top 3 des gérants pour 2026, les actions achetées ou vendre. Mais pour une émission de guerre, il nous faut des invités de guerre, il nous faut des Jedi de guerre. Donc les Jedi de l'économie et de la finance de guerre. Elle nous a rejoint récemment et fait désormais partie de nos troupes d'élite de l'économie. Léa Dauphaz, vous êtes Chief Economist de TAC Economics. Vous savez exactement ce qui va se passer. Vous me l'avez dit dans le couloir, vous m'avez dit, mais il n'y a aucune incertitude, on a tout prévu.
La seule certitude, c'est l'incertitude.
Oh, c'est beau ça.
C'est beau.
Des nuages du cloud au soleil de Sunny AM, et il nous manque le soleil. Il n'y a qu'un galop de cheval qui vient de faire avec un peu de retard. Louis de Montalembert de Sunny AM. Bonjour.
Bonjour Marc, j'étais parfaitement à l'heure.
Un peu en retard.
Non, ouais. Non.
Il défend la France avec brio et on en a besoin. Il a le talent en plus de dénicher nos pépites nationales. Pierre Chang, vous êtes responsable des pôles France et Impact à la Financière de l'Échiquier.
Bonjour Marc.
Merci d'être venu. Vous allez nous remonter le moral?
Ouais, ça y est.
En temps de guerre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un avis neutre, donc un avis suisse. Et nous avons la chance de l'avoir avec Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Là-bas, pas de missiles, pas de guerre. On est tranquille. On a la capacité de voir la situation avec un peu de recul.
La neutralité, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire.
Ah non, pas du tout. Justement, la neutralité, ça vous permet de vous poser au-dessus de la mêlée. Allez, le mot de la semaine, c'est durée. On l'a bien compris, l'impact de cette guerre va dépendre de sa durée. Alors, expliquez-nous, Patrice, pourquoi la durée du conflit est essentielle pour déterminer les conséquences économiques et financières?
Alors, plus la durée s'étend, effectivement, et plus les conséquences économiques sont importantes. Donc, on voit bien, il n'y a plus de bateaux dans ce fameux détroit d'Ormuz qui puisse passer. Donc, on est en train de bloquer une partie du commerce mondial. Les stocks s'accumulent. Alors, s'accumulent, bien entendu, avec les bateaux qui sont déjà chargés et qui attendent. Et les stocks baissent dans les autres pays. Et puis, bien entendu, on commence à le voir, non seulement l'impact direct sur le prix du pétrole et les cargaisons de pétrole lourd. Après, c'est le pétrole raffiné, mais il y a aussi tous les produits dérivés qui font qu'on voit bien que le pétrole a des impacts dans les engrais et y compris sur le prix de l'aluminium. Donc plus on a, je dirais, de temps consacré à cette fermeture, plus on a le risque.
Parce
aussi.
Que pour vous, le sujet, c'est la fermeture, c'est plus que le sujet.
Alors, aujourd'hui, c'est le sujet, me semble-t-il, le plus important. Parce qu'en fait, on pourrait très bien imaginer des scénarios dans lesquels le conflit dure, mais si le détroit est réouvert partiellement et que les flux de marchandises y compris, bien entendu, de pétrole lourd, puisse passer, à ce moment-là, on verrait déjà une réaction positive.
D'accord.
Sur les marchés, une certaine détente.
Donc, c'est un véritable enjeu, plus que le cours du pétrole lui-même, qui dépend aussi du détroit.
Aujourd'hui, je pense que c'est l'enjeu, et c'est pour ça qu'on a vu cette semaine, effectivement, la communication envers le détroit, avec les Américains qui prétendent que fin mars, on pourra passer de façon libre, et les nouveaux dirigeants iraniens qui disent qu'il n'est pas question que les bateaux passent. Donc je pense que c'est vraiment la variable qu'il va falloir suivre dans les jours prochains, peut-être même durant ce week-end, si on a des effets d'annonce.
Léa, à partir de quelle durée de ce conflit, et éventuellement donc de la fermeture du Détroit, mais de ce conflit en général, on rentre dans des conséquences qui sont durables pour l'économie, pour l'inflation ?
Il y a à peu près trois régimes à avoir en tête. Le régime dans lequel on est aujourd'hui, c'est quelques semaines. On regarde ça par rapport au stock et aux capacités. C'est 4 à 6 semaines, à peu près, dans lequel le choc sera absorbable et assez faiblement visible. Ensuite, c'est un conflit long qui dure 2 à 3 mois. Là, vraiment, c'est un choc de reconfiguration macro. L'érosion des marges des entreprises, la confiance, l'effet...
3 mois, on est déjà dans le macro.
3 mois, on va déjà avoir les chocs macro. Des effets trimestriels, on va déjà les voir. Ils seraient encore faibles.
Sur les résultats des entreprises.
Sur les résultats des entreprises, sur la confiance des ménages, sur l'inflation porter sur le choc si en fait on ne réouvre pas le détroit. Il y a aussi, alors il y a la question de durée du détroit, il y a celle aussi de capacité des structures de production. On peut avoir un détroit ouvert, si on n'a pas capacité à produire, de toute manière ça sera bloqué. Et là c'est un délai court, c'est 3 mois. Et puis après il y a le délai long où là vraiment c'est un choc de reconfiguration, c'est un choc macro qui sera beaucoup plus significatif. Alors, dans lequel est
long, c'est quoi? Parce qu'on sait long, très bien qu'il y a les mid-terms quand même en novembre. Il va pas rentrer en guerre en étant. Il va pas rentrer dans les élections en étant en guerre.
Long, c'est autour du deuxième trimestre. C'est au-delà du T2. C'est en gros 6 semaines, 3 mois, et au-delà de 3 mois, on est vraiment dans quelque chose qui est différent. Dans le délai de 3 mois, les banques centrales vont jouer l'attentisme, vont communiquer, mais avant d'agir. Si ça passe 3 mois, là, on a les réactions sur les taux d'intérêt, on a des reconfigurations sur les questions budgétaires. 3 mois, c'est en gros la chape, et on aura déjà un effet visible sur les 3 mois. En gros, pour moi, c'est plutôt quelques semaines versus le trimestre.
Louis, vous vouliez intervenir?
On réfléchit beaucoup à cette crise de manière in abstracto. En fait, on regarde ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz in abstracto, d'une économie qui ne vous a pas échappé, sort d'un cycle économique expansif très long. Et en fait, dans ce genre de cycle... Dans ce genre de cycle, il y a toujours des mauvaises allocations du capital qui se passent, il y a des risques qui s'accumulent. Et en fait, la question, c'est moins la durée que est-ce que finalement, dans une économie qui peut être fragilisée, on a vu la dette privée aux États-Unis qui craque, c'est quand même un sujet majeur. Qui est majeur. On sait qu'il y a l'immobilier commercial qui a un vrai problème. On parlait du rapport Citrine la dernière fois que je suis venu, il y a à peu près un mois, c'est le risque déflationniste lié à l'IA. Et donc, en fait, c'est un choc additionnel qu'on ajoute. C'est pas juste un choc in abstracto, c'est un choc additionnel. Et donc, ce qui est assez effrayant, c'est l'idée de se dire que tous ces risques finissent par se concrétiser, se cumuler.
Se chevaucher.
Et donc, je ne sais pas si on peut parler juste de la crise actuelle sans mettre tout ce qu'il y a derrière.
Alors, c'est intéressant comme point de vue, parce qu'effectivement, en fait, on voit très bien, c'est pour ça que j'ai choisi ce mot de durée, Patrice, parce qu'on voit très bien qu'on est dans un problème d'horizon de temps. C'est-à-dire que sur l'horizon de temps que décrit Louis, on a effectivement toutes ces plaques qui sont en train de bouger. On peut remonter encore plus loin, on peut aller, évidemment, vous avez parlé de l'IA, on peut remonter encore plus loin, on peut parler de la démographie, on peut parler de tendances à très long terme. Mais là, on est sur un événement majeur de court et de moyen terme. Léa nous dit, en gros, on peut gérer 6 semaines, on peut gérer 3 mois. C'est quoi l'impact, même à 3 mois, par exemple, ou 3 mois ou un peu plus, sur l'inflation? C'est-à-dire que là, est-ce qu'on a vraiment des hausses de prix qui vont...
Oui, c'est malheureusement, 0,5% de plus, je dirais, malheureusement, puisqu'on a vu, en fait, dès le début du conflit, que du côté de la distribution, du côté des raffineurs, on avait l'implication ou l'application en fait des hausses de prix du spot déjà sur la distribution. Donc, et c'est là où les marchés obligataires ont été vulnérables, et notamment cette semaine, puisque en fait ce choc d'inflation, il est effectivement déjà retenu dans les cours des obligations, d'où la dérive et la hausse des taux longs. Il commence aussi à être très présent, malheureusement, je trouve, dans la communication des banquiers centraux. Et notamment en Europe. Et après, on va avoir effectivement le deuxième effet, qui est un effet de destruction de la demande. Puisque là, c'est un choc pétrolier, donc ce n'est pas un choc. Les prix n'augmentent pas parce qu'il y a un supplément de demande. Les prix augmentent parce qu'il n'y a plus d'offres. Et il n'y a plus d'acheminement. Donc, il va y avoir une restriction de la demande. Alors, avec des prix à 80 dollars, mais là, je parle peut-être sous votre contrôle, en moyenne, selon un ensemble d'études que l'on peut voir, si on restait... aux deux tours des 80 dollars en prix moyen, 80-85 dollars. Moi, je retiens l'idée que dans les scénarios, on va ajouter un demi-point d'inflation et on va retirer 0,3 point de croissance. Donc, l'inflation zone euro, 2,5, voire plus. Inflation aux États-Unis, on était plutôt sur une moyenne à 2,5. on risque de revenir vers les 3. Mais bien entendu, avec des écarts importants, parce que derrière, c'est une fragmentation de la croissance mondiale. En Europe, l'Allemagne, l'Italie sont plus impactés que la France. Le Japon est très impacté. Et au sein de l'Asie, la Chine l'est moins, alors que des pays
comme la Corée,
comme Taïwan, la Malaisie aussi, d'une certaine façon, Indonésie et Philippines, eux vont être impactés aussi beaucoup plus que les sensibilités que j'ai données, notamment sur l'inflation.
Alors, je voudrais revenir, après j'ai d'autres questions sur ce sujet-là, je voudrais revenir au deuxième thème. Trump nous a dit que la guerre serait bientôt finie, il l'a déclaré, moi j'ai tendance à croire Donald Trump. Si ça dure très peu de temps, si ça dure 6 semaines, c'est-à-dire c'est à peu près le délai de ce que vous avez dit qui est à peu près court, est-ce que on peut considérer que voilà, ça sera une petite parenthèse et on va repasser au sujet dont nous parlait Louis, qui sont des sujets de fond?
Alors, la dépendance au prix de l'énergie, on pourrait dire aussi que c'est un sujet de fond par rapport à la question.
En fait,
je pense que c'est effectivement le cas. 4 à 6 semaines, on oublie. On a le pic sur les prix du pétrole. C'est pas assez fort pour que ça se projette sur l'inflation. La confiance des ménages est peut-être un peu affectée, mais en Europe, on a les dépenses d'investissement qui sont là. Aux États-Unis, on a l'effet du One Big Beautiful Bill qui arrive à plein, qui va soutenir les midterms qui arrivent, etc., etc. Donc, on revient sur un environnement macro qui est celui d'avant. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que c'est un environnement macro qui est fragile. Donc, qui accumule un choc supplémentaire à un moment où on a déjà beaucoup de signaux faibles qui s'accumulent. Mais effectivement, si ce choc-là est sur une durée de court, il n'est pas en tout cas suffisant pour créer de la transmission macro. Par contre, dès qu'on passe sur les scénarios à 3 mois, on a effectivement des ordres de grandeur, c'est un peu plus
fort. On passe de la hausse des prix à l'inflation.
Exactement, à l'inflation, au choc de confiance, à des banques centrales qui réagissent à des phénomènes de dégradation sur les parties longues, etc., etc., sur les marges des entreprises. Et il ne faut pas oublier que là, on peut arriver très facilement dans les problématiques Covid qu'on avait. Ça ne va pas seulement être des blocages pétrole, c'est des blocages sur un ensemble large de matériaux, et notamment sur l'alimentaire. Donc on repart. Exactement, les engrais, l'alimentaire, les tubes, le soufre, etc., etc. Donc très vite, on revient en fait dans cette problématique, alors je dis Covid pas du tout, guerre en Ukraine, où on a des problèmes de pénurie qui s'auto-alimentent et créent choc. Donc toutes les considérations qu'on peut faire au-delà de quelques semaines, même les projections qu'on a, c'est des projections à minima, et qui ne supposent pas encore une fois que derrière ça débouche sur un choc de marché significatif. On arrive à ces moments private credit plus choc énergie, on l'attendait, qu'est-ce qui va faire décaler les marchés? Là, on est dedans.
Pierre, quelles sont les remontées que vous commencez à avoir des entreprises pour l'instant?
Moi, c'est intéressant parce que j'ai déjeuné, par exemple, avec une société du secteur parapétrolier, Technip Energy, cette semaine. Et en fait, j'ai été assez impressionné par leur capacité de réactivité, quoi, parce qu'ils sont actifs sur plusieurs sites dans la région. Et en l'espace de quelques jours, ils arrivent à redémarrer tout à 100%. Voilà. Donc là, ils avaient 5-6 projets dans la région. Ils avaient déjà redémarré l'essentiel à 100%, sauf un projet qui était un peu plus gros que les autres. Et ça, j'ai été vraiment frappé par ça. Deuxième élément, c'est vrai que quand on regarde un peu la réaction des marchés, parce que là, depuis le début de la guerre, c'est moins 5-7% sur les marchés. Ça, en général, historiquement, c'est quand on price un ralentissement économique. Voilà. Donc là, on n'est pas dans un, pour l'instant, je trouve, sur les marchés, on n'est pas dans quelque chose d'une panique. Plutôt, voilà. Effectivement, le pétrole monte, on pense que ça va durer plusieurs semaines, donc ça peut occasionner un léger ralentissement. Là, c'est ce que disent les marchés. Ensuite, je veux dire, pour la transmission de ce qui se passe aujourd'hui sur le pétrole à l'inflation, quand je regarde ce que fait l'INSEE, par exemple, dans la composante sur la France, les produits énergétiques, c'est 10% de la composante quand même. Donc électricité, produits pétroliers, gaz. Donc ça veut dire que la transmission, finalement, peut aller très, très vite dans l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que ça dure trop longtemps, parce que tout de suite, on va avoir une réaction sur l'inflation.
Patrice, il y a un élément quand même qui est intéressant, c'est ce que dit Léa et ce que dit Louis, c'est-à-dire que si on a ce ralentissement actuel, et notamment cette hausse de taux d'intérêt qu'on voit déjà sur les taux d'intérêt à long terme, ce choc de confiance, finalement, est-ce que ça va pas provoquer non pas une hausse des taux, mais une baisse des taux, parce que ça va créer un ralentissement de la croissance avec tous les effets négatifs dont parlait Louis tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, quand j'entends les banques centrales parler de hausse des taux, je me dis, les gars sont complètement à côté de la plaque.
Oui, comme d'hab. Ça fera partie de mon flop cette semaine.
D'accord. Ok, alors on le dévoile pas.
Mais effectivement, oui. In fine,
est-ce que plus les taux montent actuellement, plus ils baisseront plus tard parce qu'ils provoquent un choc?
La nature du choc que l'on a, le choc d'énergie, est a priori transitoire, c'est-à-dire que ces effets vont se dissiper sur l'inflation. Par contre, les chocs sur la demande, la destruction de la demande, et là il faut parler de destruction de la demande, lui, il risque d'être beaucoup plus raide. Pour un banquier central, c'est très facile de réguler l'inflation, c'est beaucoup plus difficile, 2008, on s'en souvient, il a fallu 10 ans, c'est beaucoup plus difficile de restaurer la croissance sur de bonnes bases, et là, le cycle dans lequel on était en train d'entrer était basé sur de l'investissement. Et là, l'investissement avec, comme vous le disiez, les indicateurs de croissance industrielle, ils vont naturellement baisser. Mais si les entreprises arrêtent d'investir, le cycle, lui, va s'arrêter.
Alors, on va passer au pétrole. Je vous avoue que j'ai été très surpris cette semaine de voir ce qui s'est passé sur pétrole, comme tout le monde. Hein. Là, je ne parle pas de la journée de lundi. Vous avez vu, on est passé à l'ouverture de $85 sur le brut à 120 pour redescendre à 90 dans la journée sur une déclaration de Donald Trump. On a eu l'annonce de la libération d'une partie des réserves stratégiques de pétrole. Jamais on n'a libéré autant de barils, 400 millions de barils à titre de comparaison. C'est un mois de consommation en Europe. Alors, évidemment, je comprends l'importance du pétrole. Mais quand même, on est toujours aussi dépendant alors qu'on n'est plus dans les années 70. On a eu, entre-temps, on a eu l'éolien, on a eu le solaire, on a le nucléaire, on a le charbon encore en Asie. Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi dépendant encore aujourd'hui du pétrole ?
Alors, Léa ? J'ai du coup réfléchi. Regardez, effectivement, sur l'intensité, on est moins dépendant. Il faut aujourd'hui 40% moins de pétrole pour produire 1 euro de pipe par rapport à la première crise pétrolière, par rapport à 73. Donc effectivement, en intensité, on est moins dépendant du pétrole. À l'inverse, par contre, en valeur absolue, non, l'économie ayant cru, les besoins en pétrole, avec une taille d'économie multipliée par 5 depuis 73, les besoins en pétrole ont augmenté. Je ne dirais pas qu'on est autant dépendant, je dirais qu'on est encore sur de la phase de transition. Le transport, par exemple, à 80%, on est dépendant du pétrole. Le problème avec le blocage du Détroit, c'est la pétrochimie, la grille, on a une succession de secteurs qui, eux, sont dépendants. Donc on est en transition, mais on a encore fortement dépendant, parce qu'on n'a pas encore fini ça. Et l'idée à avoir, c'est ces réserves stratégiques qui ont été débloquées, c'est effectivement massif, mais c'est vous avez une route bloquée, vous avez un pare-choc, même si vous avez un bon pare-choc, la route, elle est quand même bloquée derrière. Donc c'est un soutien, effectivement.
Mais massif, quoi. Et ça n'a eu aucun impact sur le marché.
Ça n'a pas eu d'impact. Mais parce qu'effectivement, le problème, c'est on a lâché un stock, mais on a derrière le problème du flux. On arriverait à avoir un effet positif de ça si derrière on avait, et encore une fois c'est cette question de type de scénario, le premier scénario de quelques semaines c'est un scénario d'incertitude, c'est un scénario de peur, c'est un régime de peur, donc tant qu'on n'a pas une vision claire, vous aurez beau déclencher les réserves, ça ne changera pas le problème.
Oui,
il va.
Bon, juste, il oui. y a même des produits qui sont comme l'hélium qui est fabriqué par le Qatar à 30 à 40% qui est essentiel pour faire des IRM ou pour faire des semi-conducteurs. Donc c'est vraiment clé. Mais il y a une chose sur laquelle vous nous avez fixé, c'est l'idée que cette guerre finirait quand Donald Trump déciderait qu'elle serait finie. Or, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les Iraniens aujourd'hui sont les gens qui vont décider quand cette guerre sera finie. Ouais, et en fait, c'est tellement une raison de survie pour eux. Ils ont maté leur peuple avant. Ils ont appris avec la guerre de juin l'année dernière. Donc on n'est plus dans la même configuration que la guerre de juin l'année dernière où Trump a dit allez, la guerre des 12 jours est finie, là il va nous dire la guerre des 36 jours est finie, et les Iraniens vont dire non, parce qu'en fait ils veulent pas que le plat repasse tous les 6 mois ou tous les 2 ans. Donc, comme ils ont réussi à sécuriser le régime...
Je ne suis vraiment pas d'accord avec vous, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on n'imagine pas, et je ne suis pas un expert militaire, c'est l'état de destruction de leur défense, du pouvoir,
de l'arsenal... Pas de leur puissance de nuisance.
Oui, leur ils ont une puissance de nuisance.
Oui, mais ils vont nuire jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose. Ils vont nuire jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelque chose.
Ce n'est pas du tout mon scénario, parce que je pense qu'ils sont dans un état d'affaiblissement qui est spectaculaire. Donc, vous, votre scénario, c'est une guerre qui va s'enliser, en fait.
Ouais, moi, c'est un vrai problème. Une guerre dans laquelle un des combattants va penser quitter le champ de bataille et l'autre va continuer à pourrir la situation. Moi, ça, jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose.
Et obtenir quoi ? Qu'est-ce que vous voulez qu'obtienne un régime qui est aussi fragilisé ?
Obtenir une garantie de sécurité, quelle qu'elle soit de ses voisins, soit des États-Unis, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Ils ne peuvent pas s'arrêter là.
La place du pétrole sur l'économie mondiale, ça ne vous surprend pas tout...
Non, effectivement, et je rejoins tout à fait l'analyse qui a été développée. C'est-à-dire, on voit bien qu'on dépend... Il y a le pétrole en termes de dépendance d'énergie, et puis il y a toute la pétrochimie et tous les secteurs qui utilisent encore des pétroles, des dérivés, soit en produits finis, soit en intrants. Simplement, petite parenthèse, là, par rapport à ce qui a été dit, là, je vais dans votre sens. Les stocks stratégiques...
Dans le sens de Léa, pour les gens qui nous écoutent à la radio, ils vont penser que vous êtes d'accord avec moi, ce qui va les surprendre.
Alors non, mais je suis plutôt suisse, donc
ouais, c'est vrai,
d'accord. Les stocks stratégiques ont été annoncés. La libération de ces stocks va demander, par exemple, pour être acheminé en Asie, ça, de l'ordre de 5 mois.
Okay.
Donc, ça veut dire, c'est pour ça, peut-être
c'est
que le marché
psychologique
n'a pas réagi.
Pour l'instant.
Donc, et puis, le pétrole, ça reste quand même, je dirais, un relevé de température de l'état de l'économie mondiale. Mmh. La hausse du prix du pétrole, ce serait plutôt un niveau de haute conjoncture. Mmh. Alors que là, effectivement, on est dans un choc d'offres.
Mmh. Mais ce que dit Louis, c'est qu'on est dans un contexte quand même général. Avant, remettons-nous juste avant la crise en Iran. On était quand même sur des sujets qui commençaient à nous inquiéter sérieusement. L'IA, le ralentissement du cycle de croissance américain, l'Europe, bon, qui était à la traîne de l'Allemagne et attendait le plan de relance. Tout ça, plus ce choc actuel, c'est quand même un choc sur la croissance.
Ah, c'est effectivement.
Et un choc sur la croissance, c'est aussi un choc sur l'inflation ou pas? Pas forcément. C'est-à-dire, alors, on peut avoir une situation de stagflation.
Alors, on est en train de distiller des morceaux de stagflation, c'est-à-dire de croissance réduite et d'inflation supplémentaire. Et là, le problème, c'est que l'inflation supplémentaire détruit la demande.
C'est ça.
Et donc, dans le cycle dans lequel on était en train d'entrer, c'était un cycle, on le rappelle, dominé par l'investissement, avec plusieurs niveaux. Les interrogations, en fait, c'était beaucoup plus sur le prix. Combien je paye, en fait, pour une société qui est dans les nouvelles technologies et comment je vais monétiser l'investissement. Mais l'engagement de ces entreprises-là en termes d'investissement, qui n'ont pas d'ailleurs été renouvelés sur les derniers jours, ou du moins, on n'est plus dans ce discours de course à l'armement, en quelque sorte, sous l'angle de l'investissement, lui, était bien, bien ancré et on voyait même dans des pays qui étaient en retard comme l'Allemagne, où les commandes publiques commençaient à arriver dans les carnets de commandes.
Mais vous pensez que ça va bloquer
Ces choses-là, ces éléments-là.
Par exemple, le réarmement allemand. Même le réarmement allemand, au contraire, on peut se dire que compte tenu du contexte, ils vont accélérer leur réarmement, non?
Je pense qu'ils sont déjà en phase d'accélération. On l'a vu, effectivement. Pour avoir une nouvelle phase où il faut de nouvelles décisions budgétaires, où il faut effectivement, mais il faut de la confiance. Les capacités de production, et on va buter sur les capacités de production, que ce soit la défense, que ce soit dans les secteurs traditionnels. Et là, effectivement, la seule moyen de s'en sortir, c'est des dépenses en équipement. Les entreprises ne vont pas prendre aujourd'hui, si vous êtes une entreprise large et diversifiée, où est-ce que vous allez investir, dans quelle région et à quel coût, et à quel coût de matières premières. Donc on revient effectivement sur une thématique qui était présente juste avant ce choc avec l'Iran, qui était la géoéconomie, c'est-à-dire il faut sécuriser l'accès aux ressources énergétiques, quelles qu'elles soient, pour sécuriser sa croissance domestique. Et là, c'est le problème de chacun des pays, puisqu'ils sont inégaux, et le mix énergétique de chacun des pays est complètement différent.
Pierre ?
Ouais, moi, ce que je trouve assez incroyable dans cette histoire, c'est que finalement, le monde entier est pris en otage à cause d'un petit détroit de quelques dizaines de kilomètres de largeur. Ça, moi, je trouve que, en fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est une formidable opportunité, en fait, pour l'Occident, en tout cas pour l'Europe, hein, de se mettre maintenant en marche pour vraiment décrocher du fossile, parce qu'on peut pas rester comme ça dépendant de situations de géopolitique à l'autre bout de la planète. Donc là, il y a déjà, comme disait Léa tout à l'heure, il y a déjà quand même un mouvement qui a été fait depuis les années 70, quand même déjà un affranchissement quelque part. Mais là, c'est vraiment un choc additionnel pour dire il faut continuer à électrifier, il faut continuer à travailler sur la souveraineté.
C'est vraiment un goulet d'étranglement dont vous dites c'est l'opportunité d'essayer de le faire sauter. Je sais pas comment, mais il faut.
Non, mais une opportunité de s'affranchir du fossile. Voilà, pour une région comme l'Europe, par exemple. Voilà.
Mais ce qui commence à être le cas, quand même.
On a quand même von der Leyen, qui était une disciple de Mme Merkel, que vous aimez beaucoup, qui a quand même dit que
la réforme
nucléaire avait été une catastrophe.
Catastrophe.
Donc on revient sur cette idée-là, mais ça va mettre des décennies.
Absolument.
Ça dépend.
Juste Léa, sur la croissance américaine, par rapport à ce que disait Louis avant, on était dans une fin de cycle de croissance ou sans cette guerre?
Moi, j'ai toujours j'étais très optimiste sur la croissance américaine. Je pense qu'on la réaccélère pour des questions un
Donc
peu...
Donc, il dit n'importe quoi?
Non, on a des avis divergents et c'est normal. C'est plutôt sain de pouvoir avoir des avis qui sont divergents.
Vous êtes suisse?
Non, je pense que... Alors moi, j'avais un scénario de réaccélération de la croissance américaine parce
qu'effectivement, il y a... À quel niveau sur 2026, avant le choc?
2,5.
Ah oui, d'accord.
À ce stade, je change pas scénario à supposer qu'on est sur des durées courtes. Parce qu'effectivement, on a toute l'impulsion du plan fiscal de l'année dernière qui va soutenir la consommation des ménages qui était un peu faiblarde. Le marché du travail ralentit, mais il normalise plutôt qu'il craque. Et on avait cet effet richesse entretenu par la hausse des actions, plus les investissements en IA. À ce stade, ce scénario-là tient encore pour moi. Maintenant, alors les États-Unis sont moins dépendants de ce choc-là, à la fois côté inflation et côté croissance. Le vrai risque, et je reviens à votre question tout à l'heure sur les histoires de taux, si on rentre dans un scénario plus large, c'est des chocs de, ça va être une choc de séquence, c'est un choc d'offre, donc avec l'effet hausse de taux ou autre, mais derrière, avec les fragilités qu'on a sur le choc d'action, c'est un choc de demande, avec une crise économique qui peut transformer en crise de marché et potentiellement systémique, vu toutes les fragilités qu'on a. Ah, et celui-là n'est pas du tout dans le marché.
Alors là, c'est la conclusion. La conclusion de la première partie, c'est que c'est l'apocalypse, je ne suis pas d'accord du tout. Allez, on se retrouve en deuxième partie.
BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve après donc la description apocalyptique en clôture que nous a fait Léa, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord, puisque je pense toujours...
C'est un risque.
Que ça sera un conflit court et que le maître des horloges est Donald Trump, contrairement à ce que pense Louis de Montalembert. On se retrouvera dans un mois, on verra qui a raison. Peut-être pas d'ailleurs, parce que si j'ai tort, peut-être que je ferai plus cette émission. On passe en deuxième partie de l'émission, donc avec Patrice Gautry, avec Pierre Chang, avec Louis de Montalembert, avec Léa Dauphas. Et on va parler évidemment des marchés. Oui, c'est le yo-yo, Tata Yo-Yo, vous avez compris? Non, Louis, vous avez compris?
C'est rigolo.
C'est rigolo.
C'est l'époque, c'est ma jeunesse.
Ouais, ouais, je sais, c'est pour ça, je sais que vous étiez femme. Annie Cordy, elle est toujours vivante, hein, vous savez.
Elle est venue dans mon village pour un bal populaire.
Oui, ça m'étonne pas. Ouais. Mais ça, on voit que ça vous a marqué même
ça
dans
votre façon. Ça m'a tellement marqué. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.
Même dans la façon de vous habiller. On passe donc en hebdo, bon, comme disait Pierre, c'est, bon, c'est vrai, bon, c'est rouge. Hein. Tout est rouge, Pierre. Ouais. Mais. Si on regarde la performance sur l'année, on est dans des niveaux qui ne sont pas des niveaux catastrophiques. L'Asie, qui est quand même très touchée, normalement, par ce choc, reste très positive. Bon, effectivement, le Nasdaq en baisse de 4%, le CAC de 2%. Avant de passer à vos projections, puisque je sais que vous m'avez dit, je sais exactement où vont les indices, Pierre et Louis, avant de passer à ça, c'est quoi les événements qui vous ont marqué sur les marchés, Louis ? C'est-à-dire dans... que ce soit les secteurs, les marchés, les actifs, est-ce qu'il y a des choses où on vous a dit, tiens, je sais pas, sur la tech, sur d'autres choses qui vous ont surpris
cette semaine?
Oui. Non, je vous ai surpris, c'était dans la préparation, le texte de préparation.
On m'avait un peu sur...
Ah, allez,
j'ai pas vu.
Pierre.
Ah ouais, non, ce qui a été surprenant de mon point de vue, ben depuis le 27 février...
Il y a des mecs qui bossent et d'autres qui bossent pas.
Ce qui a été surprenant, ça a été la résistance des softwares.
Ouais.
Parce que c'est vrai que les softwares, bon, après, c'est un segment qui avait déjà beaucoup souffert avant.
Ils ont mis 50% de baisse.
Ah oui, non, voilà, ils ont baissé de 50% entre juillet et février. Et du coup, pendant cette guerre, c'était finalement le refuge. C'était ce qui avait déjà beaucoup baissé. Mmh. Mais c'est vrai que quand on a ce genre de réaction sur les marchés, enfin ce genre d'événement, ce qui se passe, c'est qu'en général, les gérants, ils essaient de faire plus de trésorerie dans leurs fonds. Hein. Mmh. Donc ils vendent, ils cherchent qu'est-ce qu'on va alléger. Et souvent, ils allègent ce qui a beaucoup monté.
C'est ça.
Donc là, ils ont allégé les banques.
La défense.
Par exemple, la défense. Ouais. Quoi, la défense sur les deux semaines, ça tient.
Oui, mais il y a eu un premier mouvement qui a été une baisse.
Et par exemple, certains sous-traitants, enfin, l'équipementier automobile, par exemple, qui avait un peu monté. Comme là, ça a été aussi une sanction assez forte. Et ils se sont allés se réfugier sur ce qui avait déjà baissé. Donc notamment le software. Ça, c'est vraiment l'élément qui m'a surpris, moi, je trouve.
Mais sur le software, c'est intéressant. C'est devenu une sorte de hedge de l'IA. En fait, aujourd'hui, si un jour le logiciel monte, ça veut dire que tout ce qui est hardware, tout ce qui est semi-conducteur baisse et c'est exactement l'inverse. On a vraiment une décorrélation, on dit c'est la tech, mais on a une décorrélation absolue. Moi, un des points qui m'a marqué récemment, parce que je pense vite, c'est finalement l'évolution du Bitcoin.
Ouais.
On a vu que le Bitcoin, en fait, était progressivement délaissé au profit de l'or, et notamment avec un mouvement qui était un peu inquiétant, c'est la transformation de beaucoup de fermes à Bitcoin, qui sont devenus finalement des centres de données pour l'IA. Et donc, il y avait une question véritablement sur la pérennité du Bitcoin. En fait, cette semaine, on voit un retour du Bitcoin. Alors, je ne sais pas, il est à 72 000.
Il a beaucoup baissé.
Mais pourquoi cette semaine?
On est à 71 000 dollars.
Mais pourquoi cette semaine précisément, il remonte?
Et alors, pourquoi?
Ben, je ne sais pas.
Ah ben, très bien.
Voilà. Ça m'a marqué.
Patrice, je me retourne vers le spécialiste régional de l'or. L'or, c'est étonnant. Alors, valeur refuge. Oui. Donc on devrait se précipiter. On s'est précipité sur l'or avant la guerre. Et maintenant qu'il y a la guerre, on le vend. Alors, est-ce que c'est ce que dit Pierre, c'est-à-dire on prend les profits là où il y en a, ou est-ce que c'est une tendance de fond qui est différente ?
Non, la tendance de fond reste positive sur l'or sur le moyen terme. Je pense que en fait là on a eu un effet de mimétisme, c'est-à-dire que c'est le dollar qui a monté, puisque le dollar redevient fréquentable en quelque sorte au titre de valeur refuge, et moins l'or qui avait subi avec les cryptos et avec certains secteurs de la technologie des opérations de réduction des leviers en fait qui avaient amené effectivement l'engouement. Donc pour moi c'est plutôt salutaire, ça n'enlève en rien effectivement à l'attractivité.
Ça reste une valeur refuge.
Et pour l'instant, c'est parce que effectivement le dollar est redevenu sur le devant de la scène de façon, à mon avis, temporaire.
Léa, justement, le dollar, c'est intéressant. Bon, on disait c'est fini, il va baisser. Trump voulait qu'il baisse 1,20. On nous disait ça va aller à 1,30. Qu'est-ce qui fait qu'alors que dans d'autres événements il n'a pas agi comme valeur refuge, qu'est-ce qui fait qu'il soit redevenu valeur refuge?
Alors ça, c'est un point très intéressant que vous regardez l'évolution du dollar. Ah, c'est un point très toutes les devises.
Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ça, c'est moi, ça. C'est moi le point, non?
Je mets ensuite en avant mes travaux. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis l'épisode des tarifs de l'année dernière, c'est la seule fois dans des épisodes historiques où le dollar n'avait pas joué le valeur refuge. Voilà. Et on assimile ça notamment par rapport à l'évolution du franc suisse. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui sur ce scénario-là.
Pourquoi ?
Est-ce que c'est parce que c'est un scénario extrême ? Est-ce que parce qu'on a eu les mouvements avant ? J'ai pas la capacité à répondre pourquoi. Mais je trouve que dans l'épisode où on aurait pu s'attendre justement à pas avoir les valeurs refuge traditionnelles, bah là, le dollar en est une.
Est-ce que vous pensez pas que c'est parce que, contrairement à ce qu'a compris Louis de Montalembert, les États-Unis prouvent dans cette aventure que finalement ils ont une suprématie qui est forte, notamment énergétique?
Alors, on ne cassera pas la suprématie militaire des États-Unis, la suprématie énergétique aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, la fin du conflit reste encore ouverte. On a tous en tête, et c'est un peu pour ça qu'on est en train de pricer des scénarios à la semaine, que Trump veut remporter les mid-terms et qu'il ne faut pas qu'il s'enlise dans cette guerre-là. Après, la question de l'Iran, c'est est-ce que l'Iran défend son régime coûte que coûte? Est-ce qu'elle souhaite ouvrir des négociations? Je pense que la posture de l'Iran est beaucoup plus complexe à avoir que celle de Trump. Je ne suis pas nécessairement en désaccord.
Moi, je pense que la nomination de Kevin Warsh a quand même joué. C'est-à-dire que la grande crainte a été avant la nomination d'un banquier central, et finalement il a nommé un banquier central qui est, dans le fond, il va peut-être baisser les taux, mais qui est plutôt pour une restriction de la politique monétaire. Je suis pas sûr que ce soit un gars qui fera du quantitative easing.
Peut être dangereux. C'est-à-dire que dans un épisode où on commence à avoir du stress, le marché peut avoir à se demander est-ce que Warsh va ouvrir les lignes de swap tout de suite. On n'en est pas à ce niveau-là. Peut être cette question aussi de se dire comment il va réagir. Normalement, effectivement, il est très traditionnel. Il devrait agir pour soutenir l'économie si ça ajuste. Mais cette question de Powell avait ajusté très vite et avait vraiment anticipé les choses. Que va faire Warsh, c'est aussi un sujet.
Patrice, vous comprenez ce rebond du dollar?
Alors oui, et là je mettrai la raison dans l'élément que vous avez mentionné, c'est-à-dire le risque extrême, parce que effectivement,
c'est Léa qui
on voit bien que effectivement c'est un événement qui risque de durer beaucoup plus longtemps que ce que les marchés avaient retenu au début de l'ouverture du conflit. Donc on est sur un mois, et effectivement pour l'instant visiblement c'est et d'abord les États-Unis, puis après, effectivement, en réponse à l'Iran, où se profile, en fait, l'évolution du scénario. Donc, au jour le jour, ces scénarios se construisent avec les déclarations et les différentes actions. Mais, néanmoins, et là, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, on peut avoir des accidents de politique monétaire. C'est-à-dire que, est-il justifié à la Fed de baisser aujourd'hui les taux si on baisse au printemps, alors que l'inflation sera dans une phase d'accélération? Est-il justifié à la BCE de monter les taux, alors qu'on est avec un choc de la demande? Donc, on peut avoir effectivement des réactions de politique économique qui soient désordonnées par rapport, je dirais, au risque final qui est d'avoir une croissance mondiale qui soit nettement plus faible et un commerce mondial qui soit complètement bloqué.
Pierre, où va la bourse ?
Là, on est un peu dans une situation un peu binaire quand même.
Non, vous vous mouillez là. Y a pas de...
Grégor,
comme les politiques.
Ouais, c'est toujours délicat dans ce genre de situation, mais bon, franchement, nous, on bouge pas trop dans les portefeuilles aujourd'hui. On fait un peu de cash. Enfin, on vend quelques lignes comme ça ponctuelles. Mais globalement, on est plutôt immobile pour l'instant. Parce que c'est un cas binaire, justement. Il suffit d'un tweet, il suffit d'une réaction pour que tout de suite, ça reparte tout de suite en sens inverse. Donc, dans ce genre de phase de marché, Moi, ce que j'ai.
Il y a des opportunités de rotation, peut-être, non?
Moi, je me concentre à ne pas faire l'erreur, c'est-à-dire que les marchés baissent, donc on passe défensif.
Oui.
Et puis, finalement, quand on est au fond, nous, on s'est redéployé défensif, et là, le signal arrive, et là, le marché repart, alors, et on est dans le mauvais sens. Donc, on perd dans la baisse, on perd dans la hausse. Donc
ça, c'est un conseil que vous donnez aux gens qui nous écoutent.
C'est exactement ça qu'il faut éviter. Voilà. D'accord. C'est, dans le jargon.
Les portes de saloon.
La porte de saloon. Voilà. Donc, ça, il faut absolument éviter ça. Donc, c'est pour ça que nous, pour l'instant, on est immobile. Parce que, effectivement, c'est la durée qui va. Voilà. Moi, mon sentiment, c'est que plus le pétrole monte, plus la pression sur Trump augmente. Voilà. Et plus il va faire son taco, ce qu'on dit, son retournement, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ma conviction. Maintenant, je pense pas que les Iraniens aient grand chose à dire là-dedans. Je pense qu'ils accueilleront la paix bienvenue et la survie de leur régime. Et donc, effectivement, tout repose sur Trump. Donc, Trump, c'est vraiment la clé de voûte de la libération, quelque part. Donc, je pense qu'il va finir. Moi, je suis assez proche de votre avis. Donc, du coup, dans les portefeuilles, on reste, On est plutôt dans une logique où on va saisir des opportunités. Okay. Les marchés baissent et on essaie de prendre. Aujourd'hui, les valeurs qui ont le plus baissé, elles ont baissé de 15-20%, ouais. Ce qui est déjà pas mal.
Pas mal.
Mais ça concerne vraiment la partie la plus cyclique de la côte. Pour l'instant, il n'y a pas encore de panique, il n'y a pas encore pour l'instant une opportunité vraiment
extraordinaire. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle la capitulation.
Exactement.
Des marchés. On a commencé à l'avoir un peu sur le pétrole lundi. Ouais. Quand le pétrole est remonté à 120, on a eu l'impression vraiment que c'était parti pour durer. Ça va.
Donc moi, le conseil que je dirais, c'est ne pas de panique et rechercher des opportunités dans un marché qui va vous en donner, je pense, bientôt. Voilà.
Louis, où va la bourse?
Alors,
vous êtes quand même inquiet.
Moi, vous savez que sur le long terme, je pense que la bourse va monter quoi qu'il arrive et que c'est là qu'il faut être investi. Néanmoins, je pense qu'on est dans le brouillard de la guerre et contrairement à vous, moi, je pense que toutes les cartes ne sont pas dans les mains de Trump. Et donc, il y a un degré d'incertitude qui, à mon sens, aujourd'hui, n'est pas reflété dans les marchés. Un degré d'incertitude. Je suis d'accord avec Pierre que il y a toujours ce risque que quelque chose émerge qui permette de sortir par le haut. Mais je ne pense pas, contrairement au cas des droits de douane, que ça soit Trump qui pourra dire finalement la guerre est finie et je m'en vais. Je pense que les Iraniens vont pas en rester là.
Donc à court terme, donc, vous êtes inquiet.
Ouais.
Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous nous donnez des éléments d'inquiétude à moyen et long terme, mais vous dites non, ben quand même si je suis inquiet, vous parlez de risque de crédit, vous avez souvent parlé ici de risque de crédit immobilier. Qu'est-ce qui fait que vous soyez quand même positif sur les actions à long terme? C'est pas cohérent.
Non, parce que en fait, d'abord, je parle de risque, d'accord. Et un risque ne se concrétise pas toujours. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces risques entraînent à un moment ou l'autre une purge du système d'une certaine ampleur. Ça ne veut pas dire que, de manière générale, d'accord, je ne pense pas qu'il faille être investi dans les marchés. Moi, j'étais investi en 2008 et je m'en suis très bien sorti. J'ai pris un bouillon en 2008 et pour autant, sur le long terme, je m'en suis très bien sorti. C'est un peu ça, ma philosophie.
Ça, c'est important ce qu'il dit, parce que sur les marchés, souvent, les gens sont réfractaires à la volatilité. Mmh. Alors que la volatilité, de mon point de vue, ça doit être identifié comme une opportunité. Mmh. Souvent, de rentrer sur des valeurs qui ont baissé, c'est les soldes, quelque
part.
Mais
c'est rarement les mêmes gars qui sortent au bon moment et qui re-rentrent derrière au bon moment.
On va passer tout de suite. Merci beaucoup pour ces conseils de vieux briscards. On va passer maintenant au placement de la semaine. Justement, est-ce qu'il y a quand même autre chose à faire, Louis, pendant cette période d'agitation ou on reste immobile et puis on est tout cash? Sur ce qui n'est pas investi, je veux dire.
Non, mais tout cash, certainement pas. Mais en tout cas, moi qui déteste le cash par nature, je dois avouer que j'en ai. Parce que je trouve que quand même il y a
un degré d'incertitude. Il y a un coup à boire.
Exactement, un peu plus, quelques coups à boire, le temps d'attendre que ça passe. Mais je trouve que le niveau des marchés ne reflète pas cette accumulation de risques pour l'instant.
Donc cash.
Et donc du cash. Et on peut s'intéresser en actions aux actions d'Amérique latine, notamment le Brésil, parce que le Brésil produit son propre pétrole, n'a pas véritablement de problème. Je pense que ça peut être une des zones qui émerge favorablement.
Pierre.
Alors moi, c'est l'électrification, bien sûr, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, ça plaide en faveur de l'électrification, au sens large. Voilà. Donc je dirais, c'est vraiment...
Donc c'est un secteur.
C'est un univers assez large, vous avez pas mal d'acteurs.
C'est quoi les grands noms?
En France, on a Schneider Legrand, bien sûr. En Europe, on a ABB, Siemens, par exemple. Ensuite, vous avez les distributeurs, comme Rexel. Aux États-Unis, vous avez Eaton ou Emerson, mais je veux dire...
Tout le secteur, en général.
Alors, ça, c'est mon point de tout à l'heure, mais je dirais, attention à la partie production d'électricité en Europe, mais j'y reviendrai dans quelques instants.
Allez, on passe tout de suite.
Claire, moi, sur l'électrification.
Très bien, bah, très bien. Bah, vous devriez vous voir plus souvent. on passe tout de suite au top ou au flop de cette semaine. Léa, c'est quoi votre top ou flop de la semaine?
Top, c'est la Chine. Pendant qu'on a les yeux rivés sur le Moyen-Orient et les États-Unis, la Chine a validé son 15e plan quinquennal. Elle passe en ordre de bataille pour la suite. C'est pas du tout les sujets de consommation, de reprise de la consommation chinoise, mais ça va être l'IA industrielle, la robotique humanoïde, l'interface cerveau-machine, le quantique. Et là où nous, on attend, on est posé sur nos problématiques de court terme, la Chine continue. Et quand deux
puissances... Donc vous pensez que c'est une séquence qui est plutôt une séquence relativement favorable? Je dis pas que la guerre en Iran...
Encore une fois, c'est quand on fait de la perspective de long terme, la rivalité sino-américaine est le facteur clé de nos perspectives de long terme, et la Chine est en train de franchir une étape là où les États-Unis continuent de s'enliser.
Louis, top ou flop?
Moi, c'est un top. Oui. Je me suis laissé contaminer par l'optimisme de Pierre. Donc, c'est une boîte française, c'est Exel Technologies, de mon ami Raphaël Gorgé, qui est quand même une boîte phénoménale, qui a été regardée, laissée un peu à l'abandon en bourse pendant longtemps. Et finalement, dans le pays...
Il s'appelait Groupe Gorgé à l'époque.
Voilà, dans le pays de Thalès, dans lequel on ne croit que dans Thalès en termes de défense, c'est une entreprise qui vend à l'international et assez peu en France, et notamment qui a signé l'année dernière. Donc juste, c'est des robots de déminage, essentiellement. Et l'année dernière, ils ont signé un gros contrat avec un pays du Golfe. Le nom n'a pas été révélé. On est un an plus tard. Quel timing incroyable.
Et surtout, une valorisation qui a totalement explosé.
La valorisation a explosé. Et finalement, avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est à se demander si on n'est pas au début d'une histoire.
Pierre, vous en avez en portefeuille?
Oui, plus beaucoup. Mais on en a eu beaucoup, beaucoup l'an dernier. Mais on a dû alléger parce que quand même, le parcours a été fantastique.
Fantastique. Pierre, top ou flop?
Alors moi, c'est un top. Donc j'ai un peu effleuré tout à l'heure. Mais pour moi, toute cette histoire, c'est une formidable opportunité pour l'Europe de devenir plus souverain sur l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est un vaste thème. Mais on a vu ces derniers temps... Un débat très intéressant en Europe, c'est-à-dire qu'on veut faire baisser les prix d'électricité, mais en même temps on veut décarboner. Et la stratégie qui a été prise par l'Europe, c'était de faire monter les prix d'électricité en mettant une partie pour rémunérer le CO2. Voilà. Et donc là, on a vu Giorgia Meloni, par exemple, ou Friedrich Merz, qui veulent faire baisser les prix d'électricité en faisant sauter cette partie de CO2 qui peut représenter environ 20% du prix d'électricité. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas de réindustrialisation de l'Europe sans prix d'électricité bas, et donc il faut absolument faire baisser les prix d'électricité. Ça va être un boom pour la compétitivité, la croissance économique et pour tout le secteur électrification. Les losers de la partie, enfin les perdants dans cette histoire, ça va être ceux qui produisent l'électricité, malheureusement, qui eux vont se retrouver à devoir réduire leur marge. Mais globalement, pour l'Europe, je pense que c'est une belle opportunité.
C'est une belle opportunité. Patrice.
Oui, King of the Flop, et là je m'énerve.
Ah ouais,
Casimir. Alors Casimir n'est pas le monstre gentil de l'île aux enfants qui adore le gloubi-boulgard.
Qui a bercé notre...
Casimir avec un C, ça c'était Casimir avec un C. Casimir avec un K, c'est le banquier central slovaque qui a déclaré cette semaine que la Banque Centrale Européenne pourrait monter les taux bien plus tôt que ce que les marchés attendent, ce qui me semble être une aberration dans l'environnement actuel, puisque là effectivement on sanctionnerait encore plus et les entreprises, les petites, les moyennes notamment, qui ont déjà vu en fait leur quota de crédit se réduire, et le consommateur qui va déjà peiner à réguler, je dirais, ses fins de mois. Donc là, effectivement, ça n'était pas du gloubi-boulga, c'était la soupe à la grimace.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est très énervant.
Belle référence générationnelle, je trouve.
Hein?
Belle référence générationnelle.
Absolument. Mais je trouve ça très, très énervant. Enfin, ces banquiers centraux qui rajoutent à l'ambiance de panique pour rien, c'est insupportable. Il y en a qui devraient partir un peu plus tôt que la fin de leur mandat. Allez, on passe tout de suite au top 3. La Pierre, vous êtes dedans. Sébastien Corchère en tête, numéro 1. Pierre Chang en 2. Vous avez vu, on a mis une musique hollywoodienne pour vous. Céline Pikmal-Prade en 3, et Pierre, donc puisque vous êtes à l'honneur, je vais essayer de vous faire peur. Je vous ai entendu, Pierre, non?
Non, parce que...
Non, ça va.
Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été sur le podium. Donc,
Idée Logistics, on garde ou on vend?
Oui, on garde.
Séché Environnement, ça c'est séché maintenant,
oui,
d'ailleurs.
On garde.
Arcadis,
on la sort.
Pourquoi?
Parce que
expliquez-vous.
On l'a beaucoup déçu, c'est-à-dire que c'est un métier de l'ingénierie environnementale. Et donc, voilà, le secteur souffre un petit peu en ce moment, avait très très bien marché, mais souffre un petit peu en ce moment. Et parmi les autres, ils sont moins bien débrouillés, ils ont moins bien géré le ralentissement. Et donc, je pense qu'il faut mieux parier sur d'autres acteurs dans le secteur.
EDPR, là, c'est, oui, on est clairement dans votre thématique, là. Carrefour.
On garde.
Quelle idée? Pourquoi?
La Carrefour, ils ont fait leur Capital Market Day récemment.
Ouais. J'y suis allé. Ils vous ont convaincu?
Et m'ont convaincu.
Ouais. Knorr, Bremse.
On sort. Superbe parcours, donc ouais. On prend les bénéfices.
Unibail.
On garde.
Et alors là, vous avez fait un carton avec cette boîte de CRSI que vous avez acheté, vous nous avez conseillé en février, ça a pris 49%. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouais. En fait, ce sont des Strasbourgeois. Donc moi, je suis né à Strasbourg, donc ça me touche doublement.
C'est un de vos critères de sélection.
Non, pas tout à fait, mais.
Parce que si on. Et donc. Dites-nous avant quand même.
Ils assemblent des serveurs. Ouais. Et ils les mettent où, les serveurs? Dans les data centers. Voilà, donc je veux dire, là, on est ensemble on est vraiment dans le cœur du sujet. Et ils ont décroché des énormes contrats aux États-Unis récemment. Et donc, c'est vrai que pour cette petite French Cap, c'est vraiment la success story qui est en train de se dérouler. Il y a d'autres catalyseurs qui pourraient arriver.
Magnifique, donc, ça doit vous faire plaisir, ça. Une réussite strasbourgeoise.
Bien sûr, ça fait plaisir.
Qu'est-ce qu'on achète?
Alors, on achète Biomérieux.
Ouais. C'est quoi la thèse?
Donc, qui font notamment des machines pour analyser les échantillons humains. Donc, ça peut être de la salive, ça peut être un échantillon de sang, par exemple. On met dans la machine vous donne le résultat assez rapidement. Voilà. Donc, ça a été la success story saga Biofire pour Biomérieux. Et là, maintenant, ils ont un autre type de machine qu'ils ont rassemblé sous la marque Spotfire, qui suit un peu la même courbe de croissance.
Donc, on est dans l'innovation, là.
Oui, dans l'innovation de la santé. Et le titre a un peu retracé ces derniers temps.
Donc, c'est une opportunité,
en fait. Pour plein de raisons, mais je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'attarder, enfin, s'inquiéter.
Et vous avez un autre titre à nous conseiller?
Et l'autre, c'est Score, le réassureur français. Ouais. Donc, c'est la valeur qui se paye le moins cher dans tout le secteur pour des raisons justifié quelque part, c'est depuis la disparition de Denis Kessler. On sent que dans le management, dans l'organisation
du groupe,
il y avait du flottement.
Et là, maintenant,
Thierry Léger, qui vient de Swiss Re, qui a repris la boîte depuis quelques années maintenant.
Vous lui faites confiance.
Est en train de serrer les boulons et a fait un énorme travail.
Voilà. Donc, Biomérieux et Score. Est-ce qu'on peut mettre le portefeuille de Louis de Montalembert? On va lui faire peur. Alors, Louis, vous avez du Snowflake.
On garde.
Du MongoDB.
On garde.
Du Procore.
On garde.
Du Adyen.
On garde.
Du Broadcom.
On garde.
Du Synopsys.
On garde.
Du Schneider Electric. Vous aimez ça, Pierre, Schneider Electric?
Je crois que je l'ai donné la dernière fois que j'étais là avec Pierre.
Ah, très bien. Et du Palo Alto.
On garde.
Donc vous restez quand même sur votre thématique, hein?
On voit qu'on a du hardware, du software. Oui, bien sûr. C'est ce que je fais au quotidien. Donc j'essaye de rester sur ma thématique.
Qu'est-ce qu'on achète?
Je suis à nouveau avec Pierre. Je reprends une boîte française. Je suis obligé. Hein.
Allez-y.
Soitec.
Pourquoi? C'est quoi la thèse?
Soitec, c'est...
Ah, il
c'est...
dit oui, Pierre, il est content. D'abord, il est content que vous avez choisi France.
Non, c'est une saga, c'est une des boîtes françaises qui a déposé le plus de brevets. On a 4800 brevets. Ils ont des technologies qui sont propriétaires exclusives.
Rappelez ce qu'ils font.
Ils font ce qu'on appelle les substrats. Ils ont deux activités, en gros, enfin, ils ont plus que deux, mais ils ont des machines pour couper extrêmement finement les wafers, donc qui sont ces plaques de silicium dont on a besoin pour faire des semi-conducteurs. Et puis, ils fabriquent ce qu'on appelle des photoniques soil, c'est des substrats isolants dans la photonique et dans tout ce qui est l'optique.
Okay. Voilà.
Et le sujet, c'est celui-là. C'est qu'en fait, c'est une boîte qui a beaucoup déçu, qui a eu une phase d'accélération au moment du Covid, puisque on a vendu beaucoup d'électronique. Et puis, tout d'un coup, il y a eu un surstockage. Donc, on avait fait un surstockage. Il y a toujours dans cette activité des téléphones mobiles dans lesquels ils ont une part substantielle de leur activité. On a toujours des stocks qui sont importants. Mais ils sont lancés, ils ont un savoir-faire très spécifique sur ce que j'appelais la photonique. Et on est en train, finalement, dans l'IA, avec les GPU, de remplacer tous les liens en cuivre qui chauffent de plus en plus avec du photonique. Et donc c'est un développement potentiel.
Et c'est un bon point d'entrée?
Alors, ça a pris 150% depuis le début de l'année.
Ah, ok.
Mais
depuis
sur un
le
an,
début de cette année?
De cette année.
Ah, oui, d'accord.
Mais sur un an, c'est 0%.
D'accord.
Et c'est moins 50% sur 3 ans.
Donc on peut y aller et on ne regarde pas ce qui s'est passé depuis le début de l'année.
Voilà. Alors, si j'étais venu la semaine dernière, ça aurait été mieux. Mais comme on m'a invité cette semaine, c'est un peu moins bien.
Merci de nous avoir suivis. Vous en avez, Pierre, dans le portefeuille.
Ouais,
merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, on m'annonce que l'émission sera vraiment exceptionnelle, celle-là. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, en podcast. Et en mars, j'ai envie de exploser le record, surtout qu'à la fin du mois, on se retrouvera avec Louis de Montalembert pour fêter la fin de la guerre.
C'est votre argent sur BFM Business.